Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Alors pour commencer, j'aimerais vous accompagner dans le psaume 139, qu'on a déjà entendu ce matin, mais que le Seigneur avait aussi mis sur mon cœur. Mais je vais seulement lire quelques versets, à partir du verset 13. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Donc spécialement le verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Alors on le connaît ce verset, hein. On le trouve souvent même sur des petites cartes, cartes de vœux ou cartes de naissance avec une photo de bébé, c'est bien joli. Mais je crois que ça peut nous donner à réfléchir ce verset. David dit « Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Est-ce qu'on en dit autant, nous? Est-ce qu'on peut chaque jour dire « Oui, je suis une créature si merveilleuse. Dieu, je te loue, je suis merveilleux. » Vous êtes une créature merveilleuse aux yeux de Dieu. David aurait pu dire « Oh Seigneur, j'en ai marre, mais je suis tellement nul. » Oui, il a remporté de grandes victoires. Mais oui, c'est aussi lui qui a été dans l'adultère et il a tué quelqu'un. Excusez-moi, mais c'est quand même pas une petite erreur. Je ne sais pas, peut-être que parmi vous, vous n'avez pas tué quelqu'un, je le souhaite. Hein. Donc à combien plus forte raison Dieu peut vous pardonner? Et Dieu vous aime, aux yeux de Dieu, nous sommes merveilleux. Alors est-ce qu'on peut dire ça ce matin? Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. J'ai bien entendu le début, Dieu, je te loue, mais la suite c'était un peu plus calme. Hein. Je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. C'est vrai, hein? Et si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, continuez à le dire parce que Dieu va... Ce que vous dites, ça vous aide à vous mettre dans cette pensée-là. Et quand c'est Dieu qui le dit, on peut le dire, on peut le prendre pour nous. Parfois, on se croit un petit peu laid, un peu moche. On se croit un peu faible. On se croit qu'on s'exprime pas bien. Et la plupart du temps, je crois qu'on a tendance à se diminuer et on a des complexes. Et beaucoup de gens, voire tous les gens, et peut-être même nous, dans certains domaines, on a des complexes. Mais j'aimerais vous dire que ça ne devrait pas être comme ça pour un enfant de Dieu. Et je vais vous dire comment faire pour y arriver. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que Dieu a seulement raté une chose dans la création? Moi, je ne crois pas. Donc, comment pourriez-vous être un raté puisque Dieu vous a créé? Vous ne pouvez pas. Le premier commandement de Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout votre cœur. Et le deuxième, c'est quoi? C'est quoi le deuxième commandement? Voilà, aimer son prochain. Mais pas seulement aimer son prochain, l'aimer comme soi-même. Donc ça veut dire que je dois aussi m'aimer moi-même. Alors ça fait peut-être un peu bizarre de dire « Ah, je m'aime !» Ça fait un peu bizarre. Il ne s'agit pas non plus d'être narcissique. Hein. Narcisse, dans la mythologie grecque, c'est quelqu'un qui était tombé amoureux de son image qui se reflétait dans l'eau. On n'en est pas là quand même. Hein? Là, c'est quand même un peu trop. Et ça n'a rien à voir avec de l'orgueil et du narcissisme, pardon. Mais Dieu nous demande de nous aimer. Et nous pouvons nous aimer parce que nous sommes une créature de Dieu. Et quand on aime et qu'on reconnaît la beauté d'une créature, on reconnaît le talent du créateur aussi. Quand vous voyez une œuvre d'art, vous dites « c'est beau, vous l'aimez », vous êtes en train aussi de, entre guillemets, de louer la personne qui a fait cette œuvre, parce qu'il y a un travail derrière. Vendredi, j'étais à une soirée à Strasbourg pour les jeunes, à la soirée Pulse. Et puis, il y avait un invité assez original, on peut dire. Et il nous a raconté un petit peu comment il était venu au Seigneur et comment les choses se sont passées au début de ce qu'il a commencé à faire. Maintenant, il fait de la BD et c'est en train de se diffuser un petit peu partout. Mais au début, il savait pas trop ce qu'il allait faire. Il aimait bien dessiner. Et puis, il était une fois dans une réunion d'évangélisation. Et puis, l'évangéliste a fait un appel. Il a dit, maintenant, vous qui êtes là, vous savez que vous avez un don de Dieu et que vous voulez vraiment le donner à Dieu pour le mettre à son service, alors levez-vous. Et puis, lui, il réfléchissait. Il disait, mais bon, Seigneur, moi, je sais rien faire. Quoi. Tout ce que j'ai essayé, je l'ai raté. Quand j'essaye de dessiner, les gens savent pas trop ce que c'est, me disent que c'est original, mais on sait tous ce que ça veut dire. Alors il s'est dit, mais écoute Seigneur, j'ai rien, mais ce rien, je te le donne. Et il s'est mis debout. Alors, il était au fond de la salle, il s'était caché un petit peu. Et puis, manque de bol, l'évangéliste l'appelle, lui dit, tiens toi, viens voir s'il te plaît. Il a dit, alors qu'est-ce que c'est le don que tu donnes à Dieu? Alors on a aussi bien rigolé, quoi. Mais alors il a dit, mince, mon œuf, il faut que je trouve quelque chose, quoi. Alors il a dit, oui, bon, je gribouille un peu sur mon cahier de maths et puis j'aime bien évangéliser. Et à partir de là, il a dit, bon, maintenant je vais commencer à dessiner. Et il passait des heures et des heures à essayer de dessiner des BD d'évangélisation, parce que les prospectus classiques, ils trouvaient que c'était pas toujours très joyeux. Et lui, il avait vraiment à cœur de faire des BD pour évangéliser les gens, de faire des dessins, etc. Et sincèrement, ça marchait pas. Après, il a essayé de faire une école d'art et de dessin, et il s'est représenté une fois, refusé, deux fois, refusé, trois fois, refusé, quatrième fois, refusé. Mais à ce moment-là, il travaillait avec son... C'était son père ou son oncle, qui avait une entreprise où il livrait des boissons. Et pendant qu'il portait les cajots, il sentait dans son cœur qu'il allait faire cette école. Dieu lui a dit, tu feras cette école cette année. Les inscriptions étaient terminées, on avait refusé. Il a dit, bon, j'irai l'année prochaine. Hein. Et puis le lendemain, on a téléphoné à son père, on a dit, il faut que votre fils vienne. Il a fait cette école. Alors, il était déjà content de pouvoir faire l'école, mais quand on lui demandait... Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi est-ce que tu as fait cette école? Est-ce que tu veux faire du cinéma? Est-ce que tu veux être dans quel domaine? Et lui a dit, ben, j'aimerais bien dessiner des BD pour évangéliser. Alors déjà, ça faisait encore de lui quelqu'un d'original dans l'école. Mais c'est ce qu'il voulait faire. Alors il arrive au bout, il passe son examen. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il le rate, hein. Il le rate. Mais il le repasse quelques mois plus tard. Et là, il l'a de justesse. Alors il était content quand même. Mais malgré ça, il n'était pas encore trop doué. Et il continuait vraiment à se placer devant Dieu. À un moment donné, il a commencé à dessiner et ça a commencé à venir. Et maintenant, il a sorti une première BD et il en a sorti une deuxième. Et elles sont diffusées, lui il est en Suisse, hein. Elles sont diffusées en France aussi. C'est Alain Audercet en fait, si quelqu'un le connaît. Hein. Et puis, il est même en train d'avoir un contrat pour que ce soit traduit en anglais et diffusé aux États-Unis. C'est des BD dans lesquels il parle du Seigneur. Alors la première, elle était trop religieuse, on n'a pas voulu le mettre dans les magasins, etc. La deuxième, il a fait un peu plus sobre, c'est-à-dire qu'il raconte des histoires. Et puis à la fin, quelque part, il y a quand même quelque chose qui parle de Jésus. Et il a déjà eu des témoignages de gens qui ont été convertis par ça. Et au départ, il n'avait rien. Il a dit, Dieu, je te donne mon rien. Hein? Et en plus, il vient d'avoir un contrat qui fait que ces BD vont bientôt apparaître dans les rayons de tous nos hypermarchés ici en France. Et ça, c'est quand même un miracle, hein, parce qu'avec la laïcité, avec tout ça... Une BD qui parle de Jésus va apparaître dans les rayons de nos hypermarchés. Ça, c'est merveilleux. Donc, juste ce témoignage pour vous dire quand même, si vous avez l'impression que vous n'avez rien, vous valez rien, tout ce que vous faites, ça rate, eh bien, pour Dieu, vous avez de la valeur. Et si vous lui donnez ce rien, Dieu va en faire quelque chose. Et en fait, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien donner à Dieu. Je dis à Dieu de donner votre rien. Et là, il y a une différence. J'ai rien, mais ce rien-là, je le donne à Dieu. Parce que si vous donnez rien, on ne peut rien faire. Si vous donnez... votre rien, Dieu peut en faire quelque chose. Alors ce matin, il n'y a personne parmi nous que Dieu ne puisse rien faire avec. La phrase n'est pas très française, mais on a compris. Vous êtes une créature merveilleuse de Dieu. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Je ne sais pas si je vais vraiment faire ce que je voulais ce matin, mais l'important c'est que la parole de Dieu soit partagée et que ça nous fasse du bien. Amen. Psaume 139, verset 14. Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et tous les jours, bon, je reformule, hein. Et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits devant toi avant qu'ils n'existent. Avant qu'ils n'existent. Dieu savait ce qu'il allait faire de vous. Donc vous êtes une créature merveilleuse. Dieu vous aime et peut vous utiliser. Et nous allons regarder un petit peu dans la Genèse d'où est-ce qu'on sort. Et ça va aussi nous aider à croire que Dieu nous aime, à croire que Dieu peut nous utiliser et à nous dire que oui, nous sommes une créature merveilleuse. Oui, nous sommes là pour quelque chose. Oui, nous sommes utiles. Et non, nous ne sommes pas les restes ou les déchets ou les ordures de ce monde. Genèse 2, verset 7, normalement. Ouais. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Je veux remarquer au moins deux choses ici. L'Éternel Dieu forma l'homme, à partir de quoi? De la poussière de la terre. Pour prendre la poussière, il a fallu que Dieu descende sur la terre, prenne la poussière et forme l'homme. Alors on sait que Dieu est venu sur terre à travers Jésus, après, pour racheter l'humanité, mais Dieu a déjà été prendre de la terre pour vous créer. C'est un acte créateur de Dieu. Dieu lui-même s'est occupé de vous créer. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Dieu a soufflé dans vos narines. Je ne vais pas le faire ce matin, mais si on veut souffler dans les narines de quelqu'un, il faut certainement qu'on s'en approche. Beaucoup, parce que je ne sais pas, le nez, ce n'est pas très atteignable. Je peux souffler sur votre front, je peux souffler peut-être dans votre bouche, mais dans les narines, il faut quand même y aller. Vous savez, parfois, il faut, dans certains versets, c'est bien de voir des détails parce que ça nous parle de quelque chose. Hein? C'est vrai qu'il faut y aller pour se demander comment Dieu a fait pour souffler dans notre nez. Mais ça nous montre que Dieu a déjà, dès qu'il nous a créés, qu'il a fait quelqu'un qui devait me ressembler, il a fait un homme et il a soufflé son souffle de vie dans ses narines. Dieu s'est approché, on ne pouvait pas être plus près. Et il a donné le souffle de vie. Donc d'où vient la vie? Elle vient de Dieu. En d'autres termes, il y a quelque chose de Dieu en vous. Et ça, ça fait de vous quelqu'un de merveilleux. Ça fait de vous quelqu'un de valeur. Vous savez, Dieu a créé l'homme, pourquoi? Pour qu'il puisse dominer sur la terre. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit dominé. Dieu a créé l'homme après les animaux et différemment des animaux. D'abord, Dieu crée tout, il crée tous les animaux, il crée les poissons, il crée les oiseaux et tout. Et après, il crée l'homme. Mais il n'est pas dit que Dieu ait soufflé dans les narines ou dans les museaux ou ce que vous voulez, des animaux. Dieu a soufflé seulement dans les narines de l'homme. Donc l'homme est différent des animaux. L'homme a plus de valeur. Vous avez de la valeur, vous n'êtes pas un simple mammifère parmi d'autres. Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est pas moi qui répète, hein, c'est écrit plusieurs fois. Je crois que Dieu veut vraiment nous faire comprendre qu'on n'a pas mal regardé, qu'on n'a pas mal lu, mais Dieu a créé l'homme à son image. Vous êtes à l'image de Dieu, à son image et à sa ressemblance. Je ne sais pas comment est Dieu, personne ne l'a vu. Mais il y a quelque chose de Dieu en chacun de nous. Et c'est à travers nous que Dieu se révèle dans ce monde. C'est à travers nous que Dieu se révèle dans ce monde. Vous savez, Dieu a créé l'homme, a créé un jardin, le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, on voit qu'il n'y avait pas seulement des plantes et tout ça, mais l'homme et la femme vivaient dans ce jardin et ils vivaient une belle vie. À mon avis, il ne manquait certainement de rien. Il ne devait pas faire trop chaud, il ne devait pas faire froid. Il y avait certainement des ruisseaux, des jolis endroits. Ça devait vraiment être merveilleux. Mais non seulement Dieu les a mis là et les a laissés, il a dit « Bon, j'ai de nouveau terminé quelque chose, c'est bien joli, je vais mettre ça dans ma vitrine, ça fera bien, et puis je vais faire autre chose. » Non, Dieu venait les voir, Dieu avait déjà une communion avec eux. Et dans Genèse 3, on le voit ça. Donc on sait que Dieu leur avait dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sans qu'ils allaient mourir. Et puis le diable est venu pour les tenter, leur dire « Mais mangez quand même, c'est pas tellement grave, Dieu a peur que vous soyez comme lui. » Et quand ils avaient péché, ils sont partis se cacher. Et dans Genèse 3, verset 8, on peut voir ça. « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et l'homme répondit, etc. Mais ce qui m'intéresse là, c'est au verset 8, regardez. « Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. » Et ensuite, Dieu lui dit, « Où es-tu ? » Ça me donne à penser que le soir, Dieu venait les voir. Dieu venait discuter avec eux. Dieu venait passer du temps avec eux. Il lui dit, « Où es-tu ? » Parce qu'il avait l'habitude quand il venait de le trouver là. Dans le jardin d'Éden, déjà, Dieu avait établi une communion, une communication avec l'homme. Donc Dieu a créé l'homme différemment des animaux. Il nous a donné son souffle de vie. On est à son image, à sa ressemblance, et Dieu veut une communion avec nous. Et même si Satan a cassé cette communion par le péché, eh bien Dieu a envoyé son propre Fils. En fait, Dieu est venu lui-même, sous la forme d'un homme, en Jésus-Christ, pour rétablir cette relation. Pour quelle raison ? Parce que vous êtes une créature si merveilleuse. Si vous étiez comme un autre animal, Dieu aurait dit, bon, bah, tant pis, finalement, l'homme ne vaut pas mieux que les autres, je le laisse oublier. Non. Nous sommes une créature à part. Dieu nous aime. Dieu a fait de nous une créature si merveilleuse. Nous sommes tellement précieux dans les yeux de Dieu. Et ça fait du bien. Psaume 139, ça disait aussi que Dieu connaissait déjà tous les jours avant qu'il ne nous ait formés. Ça, nous, on a du mal à le comprendre. On n'est même pas encore né, Dieu sait déjà ce qu'il va y avoir devant nous. Et pourtant, c'est ça. Parce que Dieu nous a créés avec une idée à l'esprit. Dieu avait un but. On n'est pas seulement un objet que Dieu avait envie de se créer. Dieu avait un but pour nous. Ouais. Donc nous sommes quelqu'un de tellement spécial pour Dieu. Quelqu'un de tellement spécial. Et nous n'avons pas besoin d'essayer d'être comme les autres. Je crois qu'on peut complètement oublier de se comparer aux autres. Hein, parce que Dieu nous a créés chacun pour quelque chose. Vous êtes, vous, personnellement précieux aux yeux de Dieu. Je ne le dis pas seulement globalement, je le dis pour chacun. Chacun qui est là, vous êtes précieux pour Dieu. Une créature si merveilleuse. C'est formidable, hein? La dernière fois, on se promenait avec Sophie dans un parc où il y a aussi un petit morceau de zoo, comme ça, à Strasbourg, à l'Orangerie. Puis il y a quelques oiseaux, etc. Et puis on regardait un paon qui était là. Et puis voilà, on l'observait un petit peu. Sophie me dit, mais tu vois toutes ces couleurs? C'est beau. C'est beau. Oui, c'était beau. Il avait des plumes de toutes les couleurs, des ronds bleus, toutes sortes de choses. C'est magnifique de voir ça. Plus loin, il y a des flamants roses. Après, il y avait d'autres animaux un peu plus originaux qui sortaient des montagnes. Mais imaginez maintenant que cet oiseau-là, c'est un oiseau, qui soit toute la même couleur. Ça n'aurait pas du tout le même intérêt. C'était beau. Et ensuite, avec Sophie, on a vraiment béni le Seigneur. Seigneur, merci, c'est ta création. Et ben, c'est des choses simples, mais qui méritent de s'y arrêter. Si vous passez près d'un parterre de fleurs ou les décorations qu'on fait partout, s'il n'y avait que les mêmes fleurs, ça n'aurait pas le même éclat que ce qu'ils font en mettant plusieurs fleurs différentes ensemble, etc. Et de la même façon, Dieu nous a donné à chacun des choses particulières, dans un but particulier, mais qui fait aussi qu'ensemble, nous formons quelque chose de beau, quelque chose qui peut lui rendre gloire. Et si on essaye tous d'être pareil, je crois qu'on passe à côté de quelque chose. Éphésiens 2:10 dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Dieu les a préparées d'avance, ces œuvres-là. Et Éphésiens 1, au verset 5, verset 4 déjà, « En lui, donc en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et on pourrait continuer, c'est des passages merveilleux. Maintenant, dans tout ce que j'ai lu, je ne vais pas les prendre un à un, mais on voit qu'il est parlé de plans, qu'il est parlé de choses prédestinées, il est parlé de dessins qu'il avait formés, et tous les verbes sont des temps du passé. A été préparé, a été formé. C'est du passé composé normalement. Donc Dieu avait déjà prévu les choses. Dieu avait déjà prévu les choses, donc vous n'êtes pas un hasard et vous n'êtes pas une erreur. Ça, c'est évident. C'est évident. Le salut, ce n'est pas la finalité, parce que Dieu a encore un plan derrière ça. Alors oui, l'idée de Dieu, c'est que nous ayons été sauvés. Et c'est formidable. Pourquoi? Parce que Dieu veut retrouver sa relation d'intimité avec l'humanité. Dieu veut retrouver le contact avec les hommes et nous permettre de vivre de nouveau en paix avec lui et au bénéfice de tout ce que Dieu a pour nous. La Bible parle de beaucoup de promesses qui sont pour nous à notre portée. Mais non seulement ça, après Dieu veut que nous soyons transformés pour pouvoir aussi servir à sa gloire et pour amener d'autres personnes à le rencontrer, amener d'autres personnes à vivre pleinement ce que Dieu veut pour eux et pour être des témoins de Dieu dans ce monde. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu en nous. Il y a quelque chose de Dieu en nous. Nous sommes une créature merveilleuse. Et ça, ça ne convient pas spécialement à notre façon de penser. Quand Dieu me dit que je suis une créature merveilleuse, parfois je me dis, mais attends, tu m'as bien regardé. Regarde-moi un peu dans Jean 12. J'ai l'impression que ce que je suis en train de vous partager, ça peut nous faire du bien à plusieurs, hein, Amen, merci pour la confirmation. Jean 12, voilà, c'est au verset 23. Jésus leur répondit, donc là il est en train de parler, des gens qui cherchent Jésus, hein, et Jésus va annoncer en fait sa crucifixion. Mais voilà ce qu'il dit au verset 23. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Le Fils de l'homme, c'est Jésus, en fait, hein, c'est un des noms qui lui est donné dans la Bible. Mais soyez attentifs, où le Fils de l'homme doit être glorifié. Glorifié, nous on s'attend à ce que ça va être la fête, il va y avoir la foule, on va le porter, l'honorer, on va l'élever, il va être glorifié, c'est formidable. Mais verset 24, en vérité je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je prends juste ce verset. En fait, Jésus annonce qu'il va mourir, mais pour lui c'est une gloire de pouvoir mourir. Pourquoi? Parce que s'il meurt, ça va porter du fruit. Ça va porter du fruit. Et de la même façon, dans nos vies, nous avons besoin aussi de mourir à nous-mêmes quelque part. De faire mourir ma propre justice, faire mourir ma propre pensée, faire mourir mes propres jugements. Moi, je vois les choses comme ça. Mais j'ai besoin de mourir à ça en acceptant ce que Dieu pense de moi, en acceptant ce que Dieu dit de moi, en acceptant ce que Dieu a prévu pour moi. Parce que si je n'accepte pas ça, je resterai où je suis et je ne pourrai rien pour personne. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont un potentiel dans leur vie parce que Dieu nous a tous donné quelque chose. Et qui devraient avoir un impact, mais qui aujourd'hui sont comme des bébés. Ils sont toujours en train d'avoir besoin de toutes sortes de choses. Ils n'arrivent pas à se décider. Ils sont en train de se sentir faibles, parfois de pleurer sur leur pauvre malheur. Ils se regardent eux-mêmes, tout simplement. Mais ce regard-là, il doit mourir. Alors, il ne faut pas qu'on se tue, hein. C'est notre façon de penser, c'est notre mentalité qui doit mourir. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'ensuite on doive mourir à nous-mêmes. Jésus a dit que si on ne veut pas prendre sa croix, on ne peut pas le suivre. Ça ne veut pas dire qu'on est chrétien. On dit, oui Jésus, d'accord, c'est bien ce que tu as fait. Vraiment, je crois de tout mon corps, je veux te suivre. Et puis alors, on va vous faire passer par derrière. On vous a fabriqué une croix. Et puis, on va vous planter dans le jardin là. Ce n'est pas ça que Jésus dit. C'est maintenant, tu meurs à ta façon de vivre, à ta façon de penser, à ta façon de voir les choses. Et tu reçois ma vie en toi, ma vision en toi, ma pensée en toi. La Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Ouais. Et ça fait de nous des gens tellement différents. Jérémie, Dieu lui a dit aussi, avant que tu ne naisses dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et non seulement je te connaissais, mais je t'avais établi. Lui, c'était un prophète. Vous verrez ça dans Josué, c'est Josué 1, c'est un des premiers versets, vous pouvez regarder. Dans Jérémie. Dieu le connaissait et Dieu l'avait établi avant même qu'il n'existe. Et laissez-moi vous dire que Dieu vous a connu avant que vous existiez et que Dieu vous a établi pour quelque chose avant que vous existiez. Mais alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas automatiquement dans ce pourquoi Dieu nous veut, s'il nous a connus et il nous a établis? Parce que Dieu nous a donné quelque chose que lui, là aussi, c'est un pouvoir de décision, c'est un pouvoir de choix, qu'on peut appeler un libre arbitre. Donc Dieu ne nous met pas automatiquement dans ce que lui veut pour nous, parce qu'il nous laisse la possibilité de faire ce qu'on veut. Dieu attend de notre part une acceptation de son plan pour notre vie. Il attend que nous disons oui, Seigneur. Et à partir de là, Dieu n'ira jamais au-delà de ce que vous lui permettez de faire en vous. Mais gloire à Dieu qui œuvre dans nos cœurs. Du moment que nous le recevons, ben Dieu commence à agir dans nos cœurs. Et en fait, ce travail de mourir à soi-même, etc., d'autres appellent ça la croix, d'autres appellent ça la sanctification, ça ne demande pas forcément un effort surhumain de notre part. Et ça ne se voit pas forcément à l'extérieur. De mettre une cravate et un costume tous les dimanches, ça ne veut pas dire qu'on est plus sanctifié. Moi, j'aime m'habiller comme ça, mais si vous venez habiller autrement, vous faites comme vous voulez. Je ne suis pas plus saint que vous parce que je porte un costume et une cravate. Couper ses cheveux assez courts pour les hommes et surtout pas trop courts pour les femmes, ça n'a rien à voir avec la sanctification. Que les femmes ne mettent pas de pantalons et des jupes surtout pas trop courtes, ça n'a rien à voir avec la sanctification. Alors bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi, ça c'est un autre sujet. Mais je veux dire, ces choses extérieures que quelque part la religion nous apprend, pardonnez-moi, mais Dieu n'en a rien à faire. Dieu n'en a rien à faire. Et il y a des gens qui vont aller en enfer, pardon, mais en costume cravate, qui vont aller en enfer avec les cheveux longs, qui vont aller en enfer avec les cheveux bien coupés, et qui ont passé leur vie assis sur un banc d'église à croire que c'était bien, ou à prêcher ces choses en disant aux gens, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Et Jésus a dit ça déjà. C'est pas moi qui viens maintenant faire la révolution, hein. Marc 7. Donc je prends pas tout, on commence au verset 5, hein. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent. Donc les pharisiens et les scribes, c'était en fait les religieux de l'époque, hein. Les pharisiens, c'était même un peu une secte, parce qu'ils s'étaient tellement attachés à la parole de Dieu qu'ils n'ont même pas accepté que Jésus soit la révélation de la parole de Dieu. Ils étaient tellement près de la parole que pour eux, c'était écrit comme ça, Et ça ne pouvait pas être autrement. Et quand Jésus est venu, en disant qu'il était le Fils de Dieu, quand Jésus s'est révélé, on va regarder après dans Luc 4, comme étant le Fils de Dieu, pour eux, c'était un blasphème, c'était pas possible. Pourtant, tout l'Ancien Testament ne fait que d'annoncer la venue de Jésus. D'accord ? Donc, il ne faut pas non plus qu'on se colle à la parole et à certains passages, comme par exemple les passages de 1 Corinthiens qui nous parlent sur les choses, comme j'ai mentionné, sur le voile ou sur la façon de se présenter, etc., que tu es donné dans un contexte particulier, parce que là-bas, les femmes qui ne mettaient pas de voile, elles pouvaient être assimilées aux prostituées, par exemple. Et entre autres, on ne peut pas aujourd'hui demander aux femmes de mettre un voile dans l'église, ça ne veut rien dire, c'est ce que c'est. Heureusement que vous êtes gentils, parce que s'il y avait plus de monde, peut-être que j'aurais reçu une ou deux tomates maintenant. Parce que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Merci. L'avantage, c'est qu'on ne peut pas m'éjecter de l'estrade, puisqu'il n'y a pas d'estrade. Voilà, Marc 7, verset 5. Donc les pharisiens, c'était ces gens qui étaient un peu sectaires, hein, qui pourtant étaient religieux et très respectables. Et je pense qu'on peut avoir du respect pour eux, parce qu'ils connaissaient la parole. Mais ils en sont restés à la seule parole, quelque part, qui est morte, parce qu'ils n'ont pas su reconnaître, recevoir la révélation de cette parole, qui est Jésus-Christ fait chair. Jean 1 dit au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, etc. Et cette parole a habité au milieu des hommes, pleine de grâce et de vérité. Cette parole, c'est qui ? C'est Jésus. C'est Jésus. Et gloire à Dieu pour cette révélation qu'on a, nous, pour notre part. Marc 7, verset 5. Donc, les pharisiens et les scribes lui demandent : pourquoi tes disciples ne suivent-ils donc pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ? Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Ça aurait pu être autre chose, hein. Et Jésus leur répondit : hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit : ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore : vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Moïse a dit : honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites : si un homme dit à son père ou sa mère : ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Là, Jésus est en train de leur passer un bon savon, hein. Ah, vous croyez que vous êtes religieux ? Vous croyez que vous êtes saint en faisant tout ça ? Non, c'est votre tradition et au contraire, vous annulez la parole de Dieu. Et on n'a pas envie d'annuler la parole de Dieu. Amen. Et moi, j'ai pas envie de toutes ces paroles de condamnation ou de restriction qu'on donne aux gens. Et en fait, ça revient au psaume 139. C'est à force de dire aux gens, il faut faire ça, il faut faire ça. T'es pas digne, t'es pas pur. Il faut que tu peux pas venir devant Dieu. Tu peux pas faire ci. Eh ben, les gens se sentent pas une créature merveilleuse de Dieu comme ça. C'est pas possible. Alléluia. Bon, je vais laisser tomber mon plan. Merci Seigneur. Alléluia. C'est jamais de notre propre manière qu'on pourra honorer Dieu. La seule manière dont vous pouvez honorer Dieu, lui être agréable et vivre en fait la vie à laquelle il vous appelle, c'est en croyant que vous êtes une créature merveilleuse de Dieu et en vous acceptant comme tel. On a besoin de s'accepter comme Dieu nous a fait. Oui Dieu, tu m'as créé. Oui, je suis une créature merveilleuse. Oui, tu peux m'utiliser. Oui, tu peux te servir de moi, même si j'ai rien. Je vous avais déjà partagé ça, mais dans Genèse 1, Dieu a créé tout à partir de rien, de l'informe et du vide. Dieu a créé tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc même si dans notre vie, on a l'impression que c'est informe, je ne suis pas très doué, je ne sais même pas trop ce que je veux faire, c'est vide parce que je n'ai pas beaucoup de choses à donner à Dieu, je n'ai pas beaucoup de choses à faire pour Dieu, et bien ça, on peut le donner à Dieu. Et Dieu saura en faire quelque chose. L'un des plus grands maux, je crois, dont souffrent les gens de nos jours, c'est ce qu'on appelle parfois le rejet. Mais ce rejet, vous savez, il ne vient pas de nulle part. Il vient de toutes sortes de choses qui se passent. Et parfois, c'est particulièrement dans l'enfance où on dit des choses aux enfants. Je ne suis pas en train de jeter la pierre aux parents, hein, parfois à l'école ou ailleurs, ou même entre enfants. Ouais, t'es un bon à rien, pas capable. Moi, j'ai pas réussi, toi, t'y arriveras pas non plus. Des choses comme ça. Et même aux adultes, hein, à mon avis, on a tous entendu un moment ou un autre des choses dans ce genre-là. Et ça, ça ne construit pas une personne. Et ce qu'on dit aux gens, ça rentre dans leur cœur et ils commencent à croire ça, à raisonner selon ça. Et quand il y a un défi qui se présente, ils disent « Non, je ne pourrais pas le faire, je ne suis pas capable. » Et même des années après. Mais moi, mon idée, ce n'est pas maintenant de chercher, comme le font certains psychologues, dans votre passé, comment ça se fait que vous avez du mal à prendre des décisions, comment ça se fait que vous avez du mal à oser faire quelque chose pour Dieu. Non, Parce que moi, j'ai une autre méthode. C'est la méthode de Dieu. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et Jésus est venu pourquoi ? On va quand même regarder dans Luc 4. Alors, je ne sais pas si Jésus va à la synagogue parce qu'il a envie d'aller suivre le culte, forcément, ou l'office, mais Jésus va là-bas parce que c'est là qu'il y a du monde. Jésus va là-bas parce que c'est là qu'il doit être révélé. Luc 4. Donc, il se rend à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc, vous voyez, selon sa coutume. Donc, Jésus n'a pas été complètement étranger non plus à ce qui se passait autour de lui. C'est-à-dire que Dieu nous a mis dans le monde. Donc, on ne peut pas se mettre complètement à l'écart et ne plus rien faire comme le monde. Parce que Dieu en vous, ce quelque chose de Dieu en vous, doit révéler Dieu au monde qui est autour de vous. Donc, si on est seulement entre nous, on va se révéler Dieu les uns aux autres, mais ça ne va pas avancer. D'accord ? Luc 4, 17. Donc Jésus vient dans la synagogue, il se lève pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Pourquoi tout le monde le regarde ? Parce que dans la synagogue, quand on lisait un passage, ensuite on faisait un commentaire. Donc, tout le monde le regarde parce qu'ils disent « Mais pourquoi il dit rien ?» Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Sans doute, vous m'expliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Remarquez aussi, verset 17, Jésus trouva l'endroit où il est écrit ça. S'il l'a trouvé, peut-être qu'il l'a cherché. C'est pas dit, Jésus est tombé dessus, ou c'est pas dit, on a dit à Jésus de lire ce verset. On lui a donné le livre d'Ésaïe, d'accord. Mais Jésus a trouvé cet endroit et peut-être bien qu'il le cherchait. Et là, Jésus annonce pourquoi il est là. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ouais, les cœurs brisés, c'est ça, hein, c'est des gens qui n'ont plus confiance en eux, qui sont quelque part détruits, qui sont blessés. Et bien, ces gens-là, Jésus est venu pour les guérir. Et Marc 16, vous verrez que Jésus envoie ses disciples, allez, et nous sommes concernés par cet appel. Donc nous sommes appelés à faire la même chose, guérir les cœurs brisés. Il n'y a pas marqué faire des thérapies, de recherches dans le passé, et des calculs pour leur dire d'où ça vient. Les guérir, tout simplement. Et comment est-ce que Dieu guérit ? Dieu guérit par l'amour. Dieu guérit par l'amour. Les gens qui sont blessés, on n'a pas besoin de chercher pourquoi ils sont blessés. Et je ne suis même pas sûr qu'on peut leur marteler dans la tête, de les pousser à tout prix, à se dire non, c'est pas comme ça, non, je vaux mieux que ça. Les gens qui sont blessés, les cœurs brisés, les gens qui souffrent de rejet, c'est des gens qui ont besoin d'être aimés. D'être aimés dans l'Église, parce que nous sommes un endroit où l'amour de Dieu doit se manifester et surtout de découvrir, d'être conduit vers l'amour de Dieu. Et cet amour-là, ça va les guérir. Cet amour-là, ça les guérit. Et pendant ce temps, ils découvrent et ils apprennent que oui, ce que la Bible dit de moi, c'est vrai. Ce qu'il y a écrit là, c'est vrai pour moi aussi. Ce que ces chrétiens-là vivent, ben, c'est vrai pour moi aussi, il n'y a pas de raison. J'ai l'impression que le message de ce matin se tournait un peu plus autour de l'amour de Dieu, autour du fait que vous avez de la valeur pour lui. C'est important. Le reste, on le partagera une autre fois, c'est pas grave. On a besoin de réaliser que Dieu nous a fait une créature merveilleuse. Si on vous dit autre chose, je ne suis pas d'accord, il ne faut pas le croire, ce n'est pas vrai. Lorsqu'on te dit quelque chose, de voir d'où ça vient, qui t'a dit ça ? Qui t'a dit ça ? La Bible me dit que celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, il fait quoi ? Tout ce qu'il fait, lui réussit. Et elle le dit deux fois, psaume 1 et Josué. Et elle le dit certainement encore plus. Ben là, c'est deux trucs clairs. Écrit de noir sur blanc, ce qu'il fait, lui réussit. Il a du succès dans ce qu'il entreprend. Je reviens au témoignage d'Alain. Il a raté. Trois fois, on l'a refusé à son école. Il est revenu à la charge. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut être déterminé avec Dieu. Et si on te dit, non, toi, t'es nul, tu ne peux pas le faire, eh bien, si, je le ferai. Pas pour vous défier, mais parce que si Dieu a mis ça dans mon cœur, et je sais que Dieu me donne la capacité de faire ce qu'il m'appelle à faire, et je le ferai. Au moment où on loupe quelque chose, alors le diable te dit, mais t'es sûr que c'est vraiment là que Dieu t'a envoyé ? Mais t'es sûr que Dieu est vraiment avec toi là ? T'es sûr que t'as pas péché là ? Mais qu'est-ce que le diable fait ? Toi t'as fait ça et tu vas à l'église demain ? Ah ouais, je ferais peut-être mieux de rester à la maison. Donc quand vous avez ce genre de pensée qui viennent, ou quelqu'un qui vous dit ça, qui t'a dit ça? C'est pas Dieu. Parce que ce que Dieu dit se trouve ici. Amen. Et ce que Dieu dit se trouve dans vos cœurs, parce que le Saint-Esprit qui vit en vous rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, Romains 8. Et ce témoignage-là, il est vrai pour tout ce qui concerne votre état d'enfant de Dieu. Vous êtes aimé de Dieu. Dieu vous donne la capacité de faire tout ce que vous avez à faire. Dieu pourvoit à tout ce dont vous avez besoin. Moi, je suis une créature merveilleuse, mais j'ai un créateur tellement merveilleux. Et je suis content parce que ce matin, j'avais un message merveilleux, parce que celui qui me l'a inspiré, il est merveilleux. Si quelqu'un veut regarder ce que j'ai sur mes feuilles, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Mais merci Seigneur, ça fait du bien. Ouais. Je crois vraiment qu'on veut garder à l'esprit vraiment que Dieu nous aime. On est une créature merveilleuse, on est utile. Mais gardez ça dans vos cœurs, vous n'êtes pas n'importe qui. Et puis prenez soin de vous aussi. Commencez pas à tomber amoureux de votre image quand vous êtes... Ok, moi je vais m'arrêter là.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.